La Fontanelle.
Fragment.
Fragment sensible et politique.
Microcosme Murmure d'une cité est une recherche création, un work in progress du groupe artistique Les Allumeurs, de la web radio sensible et politique La Fontanelle et du média L'Insatiable, l'art principe actif. Elle s'est inventée en 2020 dans la cité Émile Dubois à Aubervilliers. Quand la ville est transformée, souvent on détruit. Derrière la démolition d'appartements parfois vétustes, il y a des histoires, des vies, un tissu de rencontres et de cultures, des souvenirs. Rendre audible et visible la vie des habitantes et habitants sur les transformations de leur quartier, comprendre les mécanismes d'aménagement urbain, rencontrer les associations et acteurs locaux, explorer l'histoire des banlieues et de l'immigration, écouter et recueillir des traces de ce qui se vit et se fait, tout cela a constitué la première étape du projet Microcosme qui a donné lieu à une édition. Nous poursuivons cette recherche-création en vous proposant, à partir de mai 2021 et tous les premiers mercredis du mois, un portrait d'habitante ou d'habitant de la cité Émile Dubois.
Nous l'avons déjà dit dans le premier podcast de cette série. Les Allumeurs, c'est une longue histoire d'amour avec Aubervilliers. 15 ans de travail avec ses habitants, habitantes, ses collectifs et ses nombreux lieux. Dans ses rues, au petit bonheur parfois, avec ses structures sociales, scolaires, culturelles et sa mairie. Quand la majorité est passée à droite aux dernières élections municipales en 2020, nous avons été bousculés. En dehors des questions de proximité idéologique, nous nous sommes interrogés sur la question dont nous allions pouvoir continuer à travailler dans cette ville, si nous allions pouvoir continuer à bénéficier des financements aussi. Il est vrai que la question de notre indépendance se pose d'autant plus fortement maintenant. Comment continuer à travailler en bonne intelligence alors que nous souhaitions maintenir une perspective critique? Dans ce podcast, nous abordons avec différentes personnalités de la ville le rôle des dispositifs des démocraties locales et le plan de rénovation urbaine en cours à la cité Émile Dubois et à la Maladrerie. Nous souhaitons, par là, interroger les tensions entre ce qui semble être une bonne entente politique, la participation des habitants et habitantes à leur cadre de vie et à la vie de leur quartier, leur empowerment et la réalité que vivent ces habitants et habitantes et des conditions qui rendent possible ou pas cette fameuse participation qu'il s'agit de susciter.
Donc je suis Myriam Nessib, je suis chargée de mission de développement local et démocratie participative sur le quartier de la Maladrerie Émile Dubois. Pour recontextualiser, alors il y a 8 quartiers Aubervilliers et 7 chargées de mission. Donc sur chaque quartier, il y a des chargées de mission qui s'occupent du développement local du quartier, donc c'est-à-dire la quotidienneté, donc voilà, relever les dysfonctionnements très pratico-pratiques comme les trous dans la voirie, les problèmes de propreté. Les faire remonter aux différents services compétents pour améliorer le quartier sur cette quotidienneté, mais aussi développer le quartier sur l'aspect social, donc coordonner des animations diverses et variées sur le quartier en fonction des ressources. Donc ça peut être des ressources associatives, artistiques, etc. Le but, c'est qu'on vienne secouer ces ressources pour faire vivre le quartier, mais aussi donner une plus grande place aux habitants en offrant des espaces de parole pour ces derniers afin qu'ils puissent petit à petit prendre, comme on dit, l'empowerment, donc prendre le pouvoir un peu sur le quartier et devenir acteurs de leur quartier, proposer eux-mêmes des événements sur le quartier, proposer eux-mêmes de structurer et développer leur quartier et vraiment devenir des acteurs à part entière. Mais ça fait pas vraiment partie de la culture encore, mais ça vient petit à petit et nous on est là justement pour développer cette culture de l'empowerment entre guillemets dans les quartiers. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que notre métier il est voué à disparaître dans le meilleur des cas, parce que ça voudra dire qu'on n'aura plus besoin de nous vu que les habitants se sentiront citoyens et acteurs démocratiques de leur quartier, donc ils n'auront pas besoin d'avoir des gens pour les motiver sur ces questions.
Alors je suis Marina Fricor, donc normalement je suis juste de passage, mais ça tombe bien, je suis contente de faire votre connaissance. Je suis le dinosaure du service parce que je suis là depuis novembre 2002. Donc je suis la secrétaire de la responsable, Madame Karen Ekanien Kodo, et je suis la secrétaire des chargées de mission. Donc mon rôle, bien sûr, c'est le secrétariat en général, prendre des prises de notes ou des comptes rendus, assister à des réunions de service, recevoir du public quand même pour le fonds d'initiative locale, qui est un organisme qui aide les habitants à avoir une subvention de 760 euros en général pour pouvoir faire des sorties, des repas de quartier aux différentes fêtes ou autres. Et je m'occupe aussi des salles de quartier pour faire les conventions. Donc je récupère tous les documents pour pouvoir pour que les présidentes référents soient en règle avec la municipalité pour les salles de quartier. Donc je réceptionne les documents et le chargé de mission se charge de recevoir ces personnes-là pour savoir ce qu'elles font dans les salles de quartier. Et des fois, je remplace des agents de proximité aussi dans les salles de quartier. Voilà, en gros, mon rôle.
Et t'es habitante aussi,
l'habitante. Et je suis, comme je le disais, je suis depuis 27 ans habitante d'Albertville-Arienne. Alors que j'avais dit au départ que j'habiterai jamais et ni ne travaillerai au Bervilliers. C'est ça que je dis, qu'il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas ton eau.
Parler d'esprit village, etc. Oui, je pense que voilà, donc Aubervilliers, ils sont précurseurs dans la démarche quartier, c'est comme ça qu'on appelait ça avant, la démarche quartier, parce que c'est venu très naturellement en fait. Maintenant, c'est très à la mode, c'est même d'ailleurs devenu une obligation d'intégrer les habitants dans les quartiers dits politiques de la ville, donc tout ça, enfin, c'est les quartiers populaires. Donc, dans les quartiers populaires, maintenant, c'est une obligation de la loi de mettre en place des actions de citoyenneté et faire participer les habitants aux rénovations de leur quartier. Mais je pense qu'Aubervilliers c'est venu naturellement dans les années 90 parce qu'en fait il y a vraiment un esprit village sur Aubervilliers, que les habitants en fait ils ont leur culture, l'appropriation de leur citoyenneté. Donc ils vont très facilement voir les élus, faire remonter quand ça va pas en bas de chez eux, ils ont pas peur d'aller à la rencontre de l'administration pour dire quand ça va pas vraiment, ils se sentent albertivillariens, il y a vraiment un sentiment d'appartenance et donc du coup c'est venu naturellement parce que voilà, ils avaient besoin en fait de cette proximité avec la municipalité et avec les services de la ville.
Depuis quand ça existe en fait?
Depuis 1997, la démarche quartier a été créée. Ça a commencé, je crois, sur le quartier du Landy avec Pascal Baudet.
Donc, je suis Marie-France, une habitante d'Aubervilliers, une habitante surtout à Émile Dubois, et je fais partie aussi de l'équipe d'animation Maladoirie Émile Dubois. Donc, je suis assez souvent à la salle de quartier, le vendredi, par exemple, parce qu'il y a des petites activités qu'on peut faire. Et du côté d'Émile Dubois, on est un peu laissé à l'abandon, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait de ce côté.
Alors, moi, je suis Neyma Akar, je suis agent proximité, donc la collègue de Mariam Nessib. Et je suis à la salle de quartier Émile Dubois, Maladoirie. Je fais l'accueil toute la semaine. J'ai des collègues qui travaillent aussi dans d'autres quartiers, dans des autres salles. Et donc notre rôle, c'est animer un peu la salle, accueillir les habitants et accompagner les permanences qui existent sur les salles, par exemple... les assistantes sociales, l'écrivain public. On a aussi, par exemple, sur la maladoirie, on a un groupe des femmes, collectif des femmes, qui font aussi des activités tous les vendredis après-midi. Et c'était à la base le bien-être, donc le soin de visage, le massage. Et pareil, à cause de Covid, donc on a arrêté un peu. Donc, mais ça reste cette permanence pour que les gens viennent, on parle un petit peu. Et on a organisé quelques sorties. La dernière, on est parti aussi avec donc les habitants au parc Saint-Paul. On faisait des cours de français avant Covid, ça s'est arrêté. Et là, depuis 2 semaines, on a repris le mercredi matin cours de français pour les femmes du quartier aussi, Autre chose, bah voilà, je participe aussi un petit peu avec Myriam dans les réunions avec les partenaires, les événements aussi, comme par exemple la fête des quartiers. Voilà. Sinon, je suis là pour informer. Ou rien que des fois, les gens ils passent juste pour prendre un petit café. Sinon, ils se posent des questions des fois. Enfin, je sais pas, ça arrive aussi que des petites mamies, que soit le lavabo il est bouché ou problème de chauffage. Voilà. Donc, ça m'arrive aussi d'aller voir le gardien pour poser des questions, voir si on peut faire quelque chose. Donc voilà, la salle du quartier, elle est vraiment pour des personnes là à côté. C'est vraiment un endroit où on peut venir dire tout ce que... soit des problèmes, ils ont des problèmes, ils vont venir ici. Ou aussi passer nous voir pour s'informer sur ce qui se passe dans le quartier.
Et c'est tout simple, hein, parce qu'on vient à la salle de quartier demander des renseignements sur le quartier, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, par exemple, de quoi on parle en ce moment. Et là, après, on reste là et nous offre un café, un thé. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, ça serait bien si on pouvait faire une petite activité pendant qu'on est là. Et elle m'a dit, ouais, pourquoi pas. Et donc c'est ainsi qu'on a commencé à faire des petites choses comme ça. Peut-être par la suite, on va chercher autre chose encore à rajouter. Mais pour l'instant, c'est des petites choses comme ça qu'on a commencé à faire. Avec des perles et puis aussi même la couture. Si on a quelque chose à faire chez nous, au lieu de le faire chez nous, on le fait là-bas. Oui, je participe beaucoup. J'ai fait aussi des sorties à la mer. J'en ai fait beaucoup. Ça aussi, c'est intéressant. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas fait. Et donc, les gens, maintenant, quand ils me rencontrent, ils me posent la question, quand est-ce qu'on fait une sortie à la mer? Donc, les gens ici, hein, les gens de la Maladoirie, même de mon côté, à Émile Dubois. Donc, j'ai fait... j'en oublie, mais j'ai fait pas mal de petites choses quand même. Hein.
Donc, on a plusieurs typologies d'habitants dans le quartier qui participent à la vie du quartier. On a premièrement les participants à la vie du quartier officielle, on va dire, parce qu'ils sont membres des instances officielles de participation de la ville. Donc, je pense à l'équipe de quartier, par exemple, qui est une instance qui donne un espace de parole mensuel aux habitants. Donc, pendant ces réunions mensuelles de l'équipe de quartier, il y a le chargé de mission, donc moi en l'occurrence pour le quartier de la Maladrerie, qui encadre la réunion, qui fait des comptes rendus, qui structure, etc. Donc ça, c'est pour les habitants qui sont officiellement actifs dans le quartier. Mais on a aussi d'autres typologies d'habitants qui vont peut-être pas intégrer ces structures officielles, mais qui vont être solidaires et qui vont participer quotidiennement. Je pense par exemple Khadija, bon, même si elle a intégré après par la suite l'équipe de quartier, mais qui pendant des années n'était pas ni formée en association, ni membre de l'équipe de quartier, mais qui proposait plein d'événements solidaires, naturels, spontanés dans le quartier. Donc elle faisait ses petites affiches, elle appelait ses voisines, ses voisins, elle leur proposait de faire un goûter de dehors ou de faire un défilé de mode, enfin des projets vraiment en plus ambitieux, hein. Je parle pas juste de faire des crêpes comme ça, et vraiment des projets ambitieux qui étaient juste menés par des habitants de façon très spontanée.
Alors là aussi, ça c'est un gros souci, enfin pour moi c'est un souci, parce qu'on est inscrite au moins 30 personnes pour l'équipe de quartier, et quand on se trouve en réunion, on est à peine 10, on est à peine 8, donc ça c'est pas bien non plus. Alors je me demande pourquoi les gens ils s'inscrivent et ils viennent pas à la réunion.
C'est des gens qui sont à la retraite aussi ou pas du tout?
Non, pas vraiment, pas forcément. Hein. Non, 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 non. Mais s'ils sont à la retraite, c'est bien, ils peuvent venir. Ils peuvent venir, c'est pas tout le temps, c'est pas tous les jours, la réunion de quartier. Enfin, pour l'équipe d'animation, c'est pas tous les jours. Hein. Donc, une fois par mois et encore, on pourrait avoir plus de personnes pour faire bouger les choses un peu plus. Parce que s'il y a comme moi de mon côté, moi je suis la seule, hein, d'Émile Dubois, à être dans l'équipe d'animation.
Et Et je pense que du coup, la ville a constaté qu'ils avaient la chance d'avoir ces habitants très dynamiques et ils ont voulu pas du tout les brider, mais leur offrir en fait la possibilité de faire plus, d'être à la hauteur de leurs ambitions. Et on a mis en place des outils comme le fonds d'initiative locale, donc le FIL, dont parlait Marina et que Marina encadre. Qui est une enveloppe à destination des habitants, donc pas des associations. N'importe quel habitant peut venir, monter un dossier de fonds d'initiative locale, demander avec l'appui de devis une somme d'argent pour un événement. Ça peut être un événement vraiment social, comme ça peut être, je sais pas, l'installation de plantes dans le quartier. Donc ça peut être un truc qui se pérennise aussi sur le quartier. Ça peut être une sortie à la mer, ça peut être plein de choses. Et donc en gros, cette enveloppe qui peut monter jusqu'à 760 € permet à des habitants lambda, j'ai envie de dire, de monter leur projet dans le quartier.
Et par exemple, les plus gros dossiers, c'est plus pour les gros projets. Là, il faut passer par autre chose, qu'on appelle ça la FIA. Et donc, je pense que ça, c'est la mairie qui donne ce genre de subvention. C'est beaucoup plus que les 760. Je ne sais plus comment on donne, mais c'est beaucoup plus.
Ce sont des habitants volontaires qui s'inscrivent au FIL et qui viennent, qui participent aux réunions pour pouvoir discuter sur les dossiers des différents projets que les habitants ont demandé et qui donnent leur validation pour savoir si c'est accordé ou pas.
Alors en fait, le FIL, donc c'est une instance qui est portée, accompagnée, on va dire, par la ville, mais officiellement c'est Aubert Quartier, donc c'est une association qui chapeaute le FIL, voilà. Et donc Aubert Quartier, cette association, elle est composée d'habitants qui, alors il y a une élection, mais alors je sais pas trop comment elle s'organise, c'est pas nous qui portons. Comment se passe l'élection, mais
c'est lors d'une assemblée générale.
Voilà, il y a une assemblée générale où il y a des habitants qui se sont présentés, il y en a un qui va être président, je sais pas c'est le titre, je sais plus, secrétaire, etc. Au sein d'association, mais c'est vraiment des habitants bénévoles. D'ailleurs, je crois que Marie-France aussi a fait partie du comité du FIL. Mais alors, à la base, le FIL, de façon officielle, c'est censé être vraiment porté par Aubert Quartier, être vraiment indépendant. Et la ville, elle est juste là pour un peu structurer et accompagner. Mais la réalité, c'est que comme c'est des bénévoles qui s'occupent du FIL et que forcément, ils sont bénévoles, donc ils n'ont pas énormément de temps à accorder, la ville, elle a quand même vachement. Elle est obligée d'être vachement porteuse aussi. Du FIL, sinon il n'existerait plus si elle n'était pas un peu en forcing derrière cet outil.
Je fais partie de la commission FIL, heureusement, parce que sinon je n'aurais pas su vous en parler. Hein. Déjà, c'est comme je fais partie de l'équipe d'animation, et donc on nous demande si on veut faire partie de la commission FIL. Et si on veut, il faut s'inscrire. Ou alors, moi je sais que cet été, un peu avant quand même, c'est la première fois, ils ont fait comme une demande sur place, dans les quartiers, un peu partout, pour demander aux gens s'ils veulent participer à l'équipe de quartier. Mais avant, ils ne faisaient pas ça. Hein. Mais maintenant, il y a peu de monde qui participe. Mais mon problème toujours, c'est les gens qui s'inscrivent et qui ne viennent pas. Alors, dernièrement, on était à 11 ans. Mais je ne sais pas en tout combien de personnes qu'il y a. Par exemple, quand les gens ils font la demande, il faut juger si la demande est valable. Par exemple, une personne va demander 25 kilos de clémentine. On va essayer de savoir pourquoi 25 kilos de clémentine, pourquoi tant de choses et pas autre chose. Ils envoient le chèque pour l'association, au nom de l'association. Mais par exemple, si c'est pour les sorties à la mer, le chèque, parce que comme nous, il nous faut une un quart, donc on fait la demande, par exemple, c'est moi qui fais la sortie à la mer, je fais la demande de quart. Et après, c'est la commission FIL qui envoie l'argent à la demande de quart. Et moi, les réservations que j'ai faites, je leur donne l'argent. Et comme ça, c'est eux qui payent le cas. Il y a des gens de la mairie. Il y a des gens de la mairie qui viennent quand même. Mais parfois, ils viennent pas. Parfois, on se retrouve sans personne. On est tout seul. Voilà, donc il y a, comment ça s'appelle, le chargé de responsable aussi qui est là. avec une secrétaire et c'est elle qui nous demande qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Donc voilà, si on est d'accord, il y en a qui s'abstient, voilà, ça se passe comme ça. Et en plus, elle fait défiler avec son ordinateur, même si on a déjà eu les dossiers, mais elle le fait défiler au fur et à mesure pour voir qu'est-ce qui ne va pas là, qu'est-ce qui ne va pas là, vous avez décidé quoi là, et puis... ça, c'est intéressant.
Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, nos limites dans ce genre d'instance, donc il y a le film, c'est valable pour les équipes de quartier aussi, on voit que par exemple, il n'y a que des retraités, etc. Je pense qu'on a beau faire ce qu'on veut. En fait, la société, elle n'est pas montée pour que les gens soient des citoyens actifs, même dans notre vie de tous les jours, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, on nous a motivés, on a motivé les villes, les collectivités à monter des instances de participation. Mais un, les habitants, les citoyens ne sont pas éduqués à être des citoyens actifs. Et deux, nos modes de vie ne nous permettent pas d'être des citoyens actifs, comme on dirait dans l'Antiquité grecque, où c'était vraiment partie prenante de notre quotidien. Et donc, quelque part, on demande aux villes et à l'administration de faire participer les habitants, etc. Mais en même temps, notre mode de vie, il n'est pas fait pour qu'on participe. Moi, aujourd'hui, c'est mon métier, mais là où j'habite, donc à Saint-Ouen, je ne participe pas du tout. J'habite juste en face de la maison de quartier. Je n'ai jamais mis les pieds, pour être honnête, parce que je n'ai pas le temps. J'arrive le soir, elle est fermée. Je pars le matin, elle est fermée. Le week-end, du coup, j'ai d'autres obligations. Voilà. Et en vrai, donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce de contradiction quand même sur la démocratie citoyenne qui est assez complexe.
Une difficulté, parce que des fois, il y en a qui travaillent, qui n'ont pas le temps d'arriver à l'heure, ou bien qui prennent en cours, ou bien qui ont d'autres choses, d'autres rendez-vous qui se greffent ou qui ne peuvent pas, quoi. Donc, des fois, il y a des membres qui... mais, par-delà ça, il y a un relevé de décision qui est envoyé aux membres pour savoir quels dossiers qui ont été... quelle somme a été accordée à telle sortie, telle prestation. Donc, ils sont quand même informés, même s'ils sont absents. Il y a toujours un suivi, quoi.
Donc la mairie, c'est pour ça que je disais que si, en fait, la mairie, quelque part, elle est obligée de porter ce projet, parce qu'on l'a déjà vu des fois, des porteurs de projets qui venaient avec toute la bonne volonté du monde, mais les personnes qui sont au fil, je sais pas pourquoi, elles ont une dent contre, c'est personnel, quoi, contre la personne, et elles le financent pas. En fait, voilà, c'est pour ça que je parlais d'éducation tout à l'heure. Je pense que la notion aussi de bien commun, elle est pas forcément innée, quoi. On l'a... Par exemple, nous, dans le service public, on a cette idée qu'on est au service du public, qu'il n'y a pas de discrimination, du bien commun. On a des formations quand on rentre dans le service public pour ça. Donc, on le sait, c'est dans l'identité, c'est dans l'ADN du service public, même si des fois, voilà, toutes les personnes travaillant dans l'administration ne le respectent pas. Mais quand même, on a quand même cette formation au bien commun et au fait qu'il faut servir tout le public de la même façon. Et bien là, quand on est au fil, on a des bénévoles qui sont donc des bénévoles, donc qui ne travaillent pas, qui n'ont pas cette sensibilité-là, et qui des fois, oui, sont un peu ont une façon d'attribuer les subventions qui n'est pas juste. Et dans ces moments-là, on essaie subtilement de faire appel au directeur ou un agent de la ville qui encadre ça. Donc ça peut être la chef de projet politique de la ville, mais on a même déjà fait appel au directeur de la démocratie pour dire, alors là, s'il vous plaît, mesdames, voilà, donc elle a donné tous les devis, il n'y a aucune raison de ne pas accepter le projet. Voilà. Des fois, il faut remettre un peu les pendules à l'heure, parce que sinon, ce serait toujours les mêmes qui auraient les subventions, quoi. Donc je suis la chargée de mission du quartier Maladrerie Émile Dubois. Donc c'est un quartier qui est très intéressant parce qu'il est actuellement en NPNRU, donc en rénovation urbaine, rénovation qui est encadrée par l'ANRU, donc l'ANRU qui est une émanation de l'État, c'est-à-dire que l'État met des subventions sur notre quartier pour le rénover. Alors, c'est dans quel cadre ? C'est dans le cadre du Grand Paris, en réalité, étant donné qu'on a la gare 15 qui va arriver sur notre quartier, donc la ligne 15 du Grand Paris, et que donc cette ligne 15, c'est quand même, il y a vocation à ce que, voilà, Aubervilliers émane un peu plus dans la métropole parisienne. Et donc, l'idée, c'est que le quartier, voilà, et cette nouvelle ligne de métro soit rénovée au niveau de l'habitat. Donc, il va y avoir des démolitions et des reconstructions d'habitat. Il va y avoir toute une réorganisation du quartier avec, voilà, une programmation commerciale, etc. Mais à côté de ça, il n'y a pas que cette rénovation urbaine encadrée par l'ANRU. Il y a aussi donc le quartier du Fort d'Aubervilliers, qui est une ancienne fortification militaire, elle est vide, entre guillemets. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a aucun réseau qui n'est fait. Mais avec le Grand Paris Aménagement, il y a le projet de faire sortir de terre plus de 1800 logements. Donc c'est carrément une extension de la ville qui va voir le jour. Et donc les travaux ont commencé. Et en attendant, donc on fait quand même vivre ce lieu avec des associations comme Ville des Musiques du Monde qui proposent 2 festivals par an. Voilà, des associations qui ont pris possession du lieu et qui font vivre cet endroit qui était jusqu'alors fermé et qui le fait découvrir aux habitants. Et voilà, l'idée c'est que dans quelques années, ça soit un nouveau quartier qui voit le jour. Et en plus, puisqu'il se passe vraiment beaucoup de choses sur le quartier, on a donc un projet de piscine olympique donc, qui ne fait pas du tout l'unanimité, étant donné qu'il voilà, va être construit sur des jardins ouvriers, s'il est construit, mais que les habitants, justement, comme ils ont beaucoup de pouvoir d'action, sont en train de se révolter contre ce projet. Donc on ne sait pas si c'est les pouvoirs publics qui vont avoir gain de cause ou les habitants. Seul l'avenir nous le dira. Et donc voilà, à côté de ça, c'est un quartier, c'est un des quartiers les plus verts d'Aubervilliers. Donc il y a, voilà, c'est un des quartiers où il y a le plus d'espace vert, à savoir qu'Aubervilliers est une ville extrêmement minérale et qu'elle est largement en dessous des recommandations. Donc on a la chance quand même dans ce quartier d'avoir beaucoup de verdure et un écrin de verdure qui est la Maladrerie. Donc la Maladrerie qui est une cité-jardin et qui est d'ailleurs classée patrimoine contemporain, architectural contemporain par l'ABS. Donc voilà, on a cette cité qui est très particulière et qui nous offre un poumon dans le quartier. On a aussi toute une histoire ouvrière très riche et touchante sur le quartier.
Donc Gilles Jacquemot, je suis architecte et j'habite la Maladrerie depuis sa création, depuis 41 ans maintenant. Voilà. Et je travaille aussi à la Maladrerie. Voilà. Donc, et puis je participe à différentes associations, dont l'une à laquelle j'ai contribué aussi à la création, ça s'appelle Jardin à tous les étages. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui très très diverses dans le quartier. Ce sont des associations thématiques, soit ça peut être communautaire, soit c'est l'association de locataires, soit c'est la régie de quartier, soit c'est une association environnementale et patrimoniale comme la nôtre, et puis d'autres encore, d'autres associations culturelles. Lyrico là, pour le chant lyrique, Voix publique pour la chanson aussi également. Et donc alors ces associations participent, se retrouvaient régulièrement autour de plusieurs thématiques qui s'appelaient Malabyrinthe à un moment donné, qui étaient des journées où on accueillait les enfants autour d'ateliers, etc. où nous on faisait une bourse aux plantes à cette occasion. Et quand il y avait des événements importants qui mettaient en cause ou qui compromettaient la vie du quartier, évidemment, ces associations se retrouvaient et se mobilisaient. Enfin, ça a été tout au long de l'histoire du quartier, ça a été comme ça. Et donc, très vite, quand il y a eu le premier projet en rue en 2004, les gens se sont mobilisés. Alors, c'est vrai que nous, en tant qu'architectes, on avait un apport un peu particulier sur la question, puisqu'on on était en capacité d'expliquer un peu les plans et de dire un peu les conséquences que ça avait. Et évidemment, quand on décrivait les conséquences, les gens étaient quand même assez remontés. Et puis, donc, au cours d'une réunion publique qui a eu lieu à l'école Langevin, là, l'école Langevin-Joliot, il y avait à peu près 80 personnes et les gens protestaient tellement que le maire a dit bon, on arrête, on suspend, on arrête le projet. Donc le premier projet en rue a été arrêté à cette époque-là. Voilà. Et maintenant, donc 10 ans après, on se retrouve un petit peu dans un contexte un petit peu semblable.
Alors moi je suis Catherine Fumani, j'habite le quartier depuis 40 ans, j'y travaille et puis j'ai toujours participé à la vie du quartier à travers les associations. Alors notre association principalement, hein, Jardin à tous les étages, qui s'est battue depuis 1995. À la suite d'une annonce, et puis pas seulement d'une annonce, mais de la mise en œuvre de la minéralisation des terrasses, parce qu'ici vous êtes dans une architecture très différente des autres, hein, puisqu'on a déjà morphologiquement, c'est une architecture qui ne reprend pas la forme des tours et des barres, mais qui est très découpée, et qui a une forme de pyramide irrégulière, qui permet donc de libérer à chaque niveau des surfaces, qui sont des terrasses jardins avec 40 cm de terre, qui sont donc des vrais jardins. Il faut ajouter que c'est une opération de logements sociaux, donc c'est quand même assez extraordinaire d'avoir cette architecture bon, qui a été réalisée par René Gayousté, hein, qui est une grande architecte. Et donc, dans les années 95, enfin juste un peu avant d'ailleurs, puisqu'on a fondé l'association après, un ou deux ans avant, l'OPH avait envisagé, pour des raisons d'entretien, absurdes d'ailleurs, parce que rien ne prouve que les terrasses minérales ne fuient pas plus, ne fuient moins que les terrasses jardins. Et donc, ils avaient envisagé de d'aller les terrasses au fur et à mesure. Et donc, nous, on a constitué une association qui s'appelait Jardin à tous les étages pour défendre cette architecture et ce projet. On a gagné, mais c'est vrai que d'année en année, la situation s'est toujours reproduite. Hein. On a toujours eu des assauts répétés sur cette architecture. Et on a toujours gagné. Hein. Alors, il faut dire aussi qu'on était dans une configuration assez quand même favorable, avec des élus qui respectaient notre combat, qui nous entendaient, et qui, et en fin de compte, ça se terminait toujours relativement bien pour la maladrerie.
Je ferai quoi pour Émile Dubois ? Oui, il y a beaucoup de réparations à faire. Beaucoup de réparations dans les logements, dans les petites locales qui se trouvent dans les escaliers. Ça aussi, parce qu'il y a des voisins qui m'en parlent. Il faudrait qu'ils fassent quelque chose. Hein, parce que vers aller Pierre Pouyal, au numéro au 12, en face, il y a un grand trou. Et ça fait un affaissement. Donc en dessous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Ça peut être creux, on ne sait pas. Donc il faudrait qu'ils s'en occupent. J'en ai même parlé au gardien. Hein. Et il m'a dit, oh, ben, vous savez, c'est plutôt la chargée de mission qui s'occupe de nos dires et de nos besoins. Et elle fait part à la mairie. Et après... c'est pas toujours la réponse positive qu'on attend, mais ça se passe comme ça. Voilà.
Alors nous avons eu en 2018 donc ce projet qu'on appelle le nouveau projet de renouvellement urbain, NPNRU national, hein, nouveau projet national de renouvellement urbain, qui annonçait les thèmes de l'ANRU. L'ANRU, c'est l'Agence nationale de renouvellement urbain, qui annonçait donc les thèmes de l'ANRU, les thèmes favoris de l'ANRU, qui sont donc percement des voies, hein, réintroduire la voiture dans les quartiers, résidentialisation. Bon, ça, c'est un mot qui fait rêver les gens en disant « Ah, on va avoir une résidence, ça va être comme chez les bourgeois et tout ça ». En fait, simplement, c'est une fermeture des immeubles pour qu'on profite plus de tous les petits cheminements qu'on a sous les immeubles. Et puis enfin, le troisième point, c'était la démolition. Alors c'est vrai que par rapport à il y a 10 ans, la démolition n'était plus obligatoire, mais ils tentent toujours de l'appliquer, et en particulier sur le quartier Émile Dubois, qui est à côté, où là, 300 logements sociaux vont être démolis. Et nous, sur notre quartier, 7 pavillons étaient envisagés, programmé pour être démoli. Donc en 2018, on s'est bagarré et on a donc réussi à faire reculer ce projet. Les élus s'étaient engagés à abandonner et à garder la maladrerie dans son intégrité urbaine et architecturale. Alors là-dessus s'ajoutait d'ailleurs le problème de la réhabilitation des logements, parce qu'il n'y a pas eu de travaux depuis 40 ans, donc il fallait remettre aux normes les logements en termes d'électricité, de chauffage, de ravalement. Donc en 2018, nous pensions donc que les choses étaient réglées. L'ANRU donc devait rediscuter de intégrer nos propositions, hein, voir comment ils pouvaient intégrer nos propositions. Et pendant 2 ans, on a eu donc un silence lié au Covid, lié au travail de l'ANRU. Et en janvier, on a commencé à être un peu inquiet en demandant un rendez-vous avec la maire. Et ce qui avait changé, c'est qu'on avait maintenant une municipalité de droite par rapport à celle de gauche auparavant. Et depuis janvier 2021, on n'avait donc pas du tout pas du tout de nouvelles. Et ils nous ont reçus en septembre pour très peu nous renseigner, nous dire que peut-être on avait toujours une option de démolition des pavillons, alors qu'on est quand même dans un quartier d'architecture contemporaine remarquable. Hein. Donc on ne sait pas dans quelle mesure ils peuvent envisager de démolir deux pavillons qui font 7 ou 2 pavillons qui font partie complètement de l'architecture du quartier. Et en nous disant qu'il n'y aurait pas de résidentialisation, donc on nous a annoncé ça. Et puis en nous indiquant, parce que nous on leur a dit, mais vous devez absolument nous intégrer dans la démarche du projet avec une phase de co-construction où normalement le projet NPNRU se fait en collaboration et puis avec la participation des habitants. C'est une donnée essentielle, c'est dans les textes. Hein.
Tous les élus qui arrivent, ils font leur 3 ans, 6 ans, et puis après, à chaque fois on entend ça. À chaque fois on entend. Ouais, à chaque fois. Et donc du coup, il n'y a rien qui se passe vraiment. À part Gabriel Rabot, allez Charles Gauperin, là ils ont rasé les premières. Habitations qui étaient là, les logements. Et d'après ce que j'ai entendu, il y a encore 300 logements qui vont sauter. Je ne sais pas hein, s'il y en a eu des notes par la mairie, mais moi, je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas vu. C'est le bouche à oreille qui m'a informé de ça. Comme les gens, ils se posent des questions. Où est-ce qu'ils vont y aller, ces gens-là? Où est-ce qu'on va les mettre? Mais ça, tout ça, ça fait partie de la rénovation, de l'enroui. Oui, mais c'est justement, c'est là où les commerçants se plaignent un peu, comme quoi qu'ils sont laissés un peu à l'abandon, puisque eux-mêmes, ils ne savent pas s'ils peuvent faire des travaux, parce que eux aussi, le local où ils sont pas, c'est pas terrible. Hein. On en avait déjà parlé une fois avec la chargée de mission. Mais tiens, il faudrait qu'on reparle encore de ça pour savoir où on est. Mais je pense pas qu'ils vont faire quelque chose parce que comme ils ont l'intention de démolir, refaire, rénover, donc je pense pas que ça va se faire maintenant.
Par rapport à Émile Dubois, d'abord, il y a plusieurs aspects. Il y a ce que pensent les habitants. Bon, est-ce que les habitants, alors il ressortait des enquêtes que des habitants auraient été d'accord pour que ce soit démoli. Mais sans se poser la question de savoir, un chantier ça prend un certain temps, où est-ce que je vais être logé? Est-ce que je vais être logé à Aubervilliers? Comme la maire ne veut plus faire de logements sociaux et qu'on a 7000 demandes de logements, enfin de gens en attente, ces gens-là pour le relogement, où est-ce qu'ils vont aller? Bon, alors, et après, est-ce qu'ils auront le courage de revenir? Est-ce qu'ils vont revenir dans des logements avec des loyers plus chers? Vous voyez, il y a plein de problématiques, parce que quand les enquêtes sont faites, c'est toujours dans le sens, dans l'intérêt de ce que l'ANRU a envie qu'on dise. L'ANRU veut démolir, et ben, on va orienter le questionnaire de cette façon-là.
Et troisième chose, après ça dépend vraiment des municipalités. Je sais que là pour le coup, on a fait quand même des porte-à-porte dans les logements qui allaient être démolis et qu'on a quand même constaté qu'il y a très peu de personnes qui sont contre les démolitions. Ou alors les personnes sont contre, mais je sais pas, elles s'intéressent pas. Et quand elles apprennent, elles sont pas contentes. Mais pourtant, ayant été au cœur du processus et vraiment avec toute l'honnêteté intellectuelle que je peux avoir, vraiment la ville fait tout pour informer. On a fait des porte-à-porte, on était carrément frappés aux portes des gens pour leur en parler. C'est pas tout le monde qui fait ça, ça se fait pas dans toutes les villes. On a flyé les boîtes aux lettres. Voilà, à un moment donné, je vois pas ce qu'on peut faire de plus, quoi. On a mis des panneaux et il y en a encore des gens qui savent pas qu'on va démolir. Alors peut-être que les gens ils passent, ils lisent pas parce qu'ils sont pris par leur vie de tous les jours. On tape à la porte, oh c'est qui? Ils regardent dans le temps, ils connaissent pas, ils ouvrent pas. Mais au bout d'un moment, je vois pas ce qu'on peut faire de plus.
C'est très facile de faire passer des plans aux gens qui ne les connaissent pas. vraiment les habitants ne connaissent pas. Même je vois là avec nos plans là, les gens reposent encore des questions. Bon, on essaie d'être pédagogique là, mais comme il va y avoir du porte-à-porte et que chacun aura un petit feuillet comme ça pour expliquer les gens où les choses vont se passer, là expliquer un peu comment fonctionne un plan et tout ça. Moi je pense que c'est très facile. Dans la plupart des quartiers, les gens ne comprennent pas les gens ne comprennent pas les dangers qui menacent le quartier. Bon, et nous là, bon, on fait ce travail d'explication. C'est pour ça que qu'on a en face de nous une structure qui est autiste, quoi.
La ville s'est réorientée, en fait. La ville a complètement changé tout ce qu'on avait imaginé il y a 2 ans, là, dans les ateliers de concertation qui avaient eu lieu à l'époque avec l'ancienne municipalité, hein, là où on avait obtenu de ne pas démolir les pavillons, etc. Il y avait des choses qui étaient encore incertaines, mais c'était au moins nos grands principes qu'on revendiquait avaient été acceptés. Et là, en fait, non seulement la nouvelle municipalité n'a absolument pas pris en compte ce qu'on a dit et donc avance ses propres objectifs, qui sont en fait les objectifs de l'ANRU, comme Catherine les a déclinés, c'est-à-dire refermer, résidentialiser, etc. Enfin, pour notre quartier qui est un quartier ouvert, c'est vrai que la résidentialisation c'est casser le quartier, c'est lui enlever une partie de ses fonctions, de sa vie, parce que en fait c'est le fait de circuler partout, c'est aussi des lieux d'échange, c'est ce qui fait aussi que quand on est sous ce bâtiment-là, c'est la même chose que sous le bâtiment d'en face. C'est que on sent qu'on fait partie d'un tout. Et que quand on traverse le quartier pour s'abriter de la pluie, ben, pour ne pas être mouillé, on sait qu'on peut passer dans la circulation couverte. Quand il fait trop chaud pour être à l'ombre, c'est pareil, on passe sous la circulation couverte. Et le jour où c'est résidentialisé, il n'y a plus ces circulations couvertes. Elles ne sont limitées qu'aux habitants de chaque immeuble. Donc on ne pourra plus aller. On n'aura plus qu'une circulation centrale, en fait. Donc il y a un appauvrissement finalement des pratiques de l'usage de la ville et en même temps des possibilités de rencontre des gens. Et comme les bâtiments vont être fermés les uns les autres, c'est sûr que ça va instituer des oppositions, c'est le bâtiment d'en face, c'est pas chez nous, on n'y va pas, on s'ignore, on dresse les gens les uns contre les autres. Mais ça, c'est une vision de la ville, c'est la ville haussmannienne, hein, c'est la ville où chaque individu est dans un immeuble, et le seul espace public, c'est la rue, il n'y a rien d'autre que la rue, et la rue, c'est très restreint, une rue, c'est un espèce de couloir, où il n'y a pas d'autre possibilité d'ailleurs, c'est contrôlable d'ailleurs, c'était Haussmann, préfet de la ville de Paris aussi, qui avait des objectifs stratégiques de maintien de l'ordre, etc. Ben, c'est aussi dans cette optique-là, en fait. Et toute la vie grouillante qui existe dans un quartier comme ça, ça va s'appauvrir, etc.
C'est surtout par rapport à l'architecte, c'est complètement aller à l'encontre de sa philosophie. Ouais. Parce que quand on voit ses écrits, elle a vraiment imaginé un quartier ouvert, qui était un lieu de promenade pour les autres personnes qui n'habitaient pas forcément la Maladrerie. C'est un poumon pour la ville, ce quartier, et à la sortie des écoles. Et puis, c'est tellement intéressant pour les enfants, avec les parents, de circuler là, plutôt que de prendre les rues, que de prendre ces rues là. J'imagine que les gens qui habitent là, bah, ils préfèrent faire ça, plutôt que de tourner autour dans ces rues là. Et on passe devant le bassin, on voit les nénuphars, on discute et tout ça. C'était la philosophie de René Gaillousté, de cette richesse des cheminements. On leur a dit travailler dans la dentelle, intervenir là où c'est nécessaire. Par exemple, il y a des cheminements en briques. Nous, sous notre porche, là, on a des cheminements en briques. Ils sont corrects. Par contre, il y a des cheminements sous certains passages couverts qui sont en béton balayé, qui ont vraiment très mal vieilli. Là, il faut intervenir. Mais on se dit, mais comment, avec une machine pareille, comment peut-on négocier? Peut-on se mettre autour de la table? Non, là, vous ne dépensez pas d'argent là-dessus, vous le mettez là, et ainsi de suite.
Même comme là, par exemple, Émile Dubois, les gens qui vont en premier un logement, les gens, ça fait 50 ans qu'ils sont là, ça fait, ils ont leur la pharmacie, leur médecin, il y en a qui ont enterré leur famille, leurs parents ici sur Robert, qui veulent pas bouger ou qui veulent vraiment un logement à côté, on leur dit oui, mais dans le neuf. Est-ce qu'ils vont payer le même, loyer? On dit oui. C'est pas aussi facile que ça. Et puis les gens, ils se trouvent des fois. Ou bien il y a l'histoire des personnes seules ou en couple qui ont eu des enfants auparavant, qui sont partis, ils se mariaient, qui se trouvent dans des F4, F5, qui payent un loyer modeste, on va dire. Et quand on leur demande de partir, donc de un changement pour aller dans un F2, si on n'a plus d'enfants, c'est vrai qu'F5, on leur propose un F2, mais avec un loyer beaucoup plus cher. Bah, les gens, du coup, bah, ils disent on préfère rester dans un grand logement et payer moins cher. Au moins, on peut accueillir nos enfants, nos petits-enfants, qu'aller dans un plus petit et plus cher. Donc, il y a des choses quand même qui ne sont pas... C'est pour ça, les gens, ils n'ont pas confiance. Je dis comme les gens, là.
Bon, d'abord, on sent qu'il y a une dynamique, là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on sent que les associations sont très respectueuses les unes des autres, enfin, etc., que chacun s'appuie. Il y a une espèce d'élaboration collective sur les mots d'ordre et tout. Chacun propose. On sent un peu les penchants de chacun, mais c'est bien de mettre ça en débat, d'en discuter, etc. Alors il y a un petit groupe qui s'occupe de réaliser des banderoles. Alors ils ont réalisé plein de banderoles, ils se réunissent à part pour réaliser les banderoles. Il y en a d'autres qui s'occupent de faire les petits flyers comme ça, des petits tracts, etc. Catherine, elle s'occupe, elle fait souvent les comptes rendus des réunions, alors qu'ils sont ils sont diffusés auprès d'un groupe qui est assez important, parce qu'il y a les 25 qui participent régulièrement. Ça se renouvelle, hein, ça n'est pas toujours les mêmes. Il y a quand même un groupe de diffusion qui est beaucoup plus important. Et on sent, il y a eu des porte-à-porte qui a été fait, puisqu'on fait signer une pétition en même temps. Il y a des porte-à-porte qui a été fait où les gens sont quand même bien reçus. Les gens sont au courant parce que on a commencé en disant alerte, la maladrerie est en danger. Et ça a tout de suite frappé. D'ailleurs, à la suite de ça, la mairie nous a appelé en disant vous semez la panique, etc. Oui, écoutez, c'est bien, les gens se posent des questions. On se pose des questions. Vous ne voulez rien faire, pas d'informations. On prend les informations où on peut les trouver et on en discute. Enfin, on a pris l'information officielle du conseil d'administration de l'office HLM, c'est tout à fait officiel, on a simplement analysé cette information et on la donne, on l'explique aux habitants, on en discute avec eux, etc. Et on sent que les gens se sentent vraiment inquiets quand même, et je pense que maintenant faut qu'ils se mobilisent, il faut que physiquement ils se mobilisent. Alors,
C'est pas un état qui va se pérenniser, ça risque d'arriver, mais la mixité sociale, pour moi, c'est transitoire, c'est-à-dire qu'il y aura ces blancs, c'est horrible de dire ça comme ça, ça paraît très dur, mais il y aura ces personnes blanches de classe moyenne qui vont arriver dans les quartiers, puis elles vont arriver en masse, puis ça va augmenter, puis les autres vont partir, et finalement, ça va être une gentrification, c'est-à-dire que les classes sociales moyennes vont venir remplacer les classes sociales populaires, donc il va y avoir une mixité, mais pendant X années, après ça sera juste une transition, mixité. Après, ça va partir. Et en même temps, des fois, je me dis aussi que tout cet argent, il n'est pas mis là pour les populations locales, il est mis là pour les futures populations. Je vois avec le fort d'Aubervilliers, ça va être tout neuf, tout beau, tout machin. Pour moi, ça va être un peu comme c'est Rosa Parks, dans le 19e. On voit bien, c'est qui habite à Rosa Parks, c'est quand même des cadres moyens. Je pense que ça va être ça. Et en plus, on est collé à Paris. Le prix de l'immobilier à Aubervilliers, aujourd'hui, il est de 8000 euros le mètre carré. C'est extrêmement cher. 8000 euros le mètre carré à Aubervilliers. Alors, c'est pas tout partout pareil à Aubervilliers.
Alors, évidemment, ça, c'est des objectifs qui vont dans le sens de la nouvelle municipalité, qui est pour la privatisation des gens, des bâtiments. Elle a dit, la maire, dans une discussion qui a eu lieu, là, justement, lors de la journée à Mulop, la visite du logement témoin que l'association avait faite sur les 800 logements, la maire a dit qu'elle voulait changer la population, qu'elle construirait plus de logements sociaux, etc. Donc, c'est un objectif. Évidemment, la population de la Maladrerie, c'est une population qui est très à l'image de l'ensemble de la ville, qui est très très variée, etc. Mais c'est une population de gens modestes et elle veut changer ça. Donc ça, c'est un des objectifs et c'est un des moyens.
Bon. Alors, je pense que déjà, de une, la démocratie aujourd'hui fait qu'on vote pour des représentants. Donc, les gens nous représentent. Donc, une fois qu'on a voté pour eux, bah, on est en réalité dans notre système, même si on aimerait faire participer les habitants, c'est. Voilà. Et bah, en réalité, une fois qu'on a voté, on a quelque part donné notre pouvoir citoyen à ces élus. Donc, une fois qu'on les a élus, c'est eux qui sont censés être décisionnaires. Donc, d'un côté, bon, si on les a élus, c'est eux qui ont le dernier mot. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. C'est comme ça que marche notre démocratie actuellement. Donc, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'intérêt général, bah, je sais pas, c'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent pas qu'on démolisse leur logement, mais la plupart du temps, les logements démolis sont insalubres. Voilà, on peut pas se permettre de mettre d'autres familles dedans pour les futures générations. Alors peut-être que c'est mal fait, mais peut-être que l'intérêt général pour les générations futures, c'est d'avoir un quartier complètement rénové.
L'idée, c'est on chasse. On vous met provisoirement ailleurs, très loin, et puis vous ne reviendrez si vous voulez. En fait, les gens ne reviennent pas. Une fois qu'ils ont une nouvelle vie ailleurs, et puis ils se disent, bon, on tire un trait, etc. On n'organise pas les choses pour que les gens restent en place. En fait, c'est fait pour qu'ils partent. C'est fait pour qu'ils partent, toutes ces procédures. C'est une politique qui existe depuis des siècles, je dirais même, parce que la question du logement social, ça a été théorisé, etc. Et que c'est un moyen pour repousser, chasser un peu plus les gens les plus modestes, le plus loin de la ville, etc. Et en fait, c'est ce qu'elle dit, la mère, en fait.